Bonjour, c'est Solène, je suis la cofondatrice de Feuilles Blanches. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est produit par notre agence. Nous sommes producteurs de médias d'inspiration pour les entrepreneurs et créateurs de contenu de marque. Vous avez un projet de création de contenu? N'hésitez pas à nous joindre sur uncafé@feuillesblanches.com. En attendant, bonne écoute! Un jingle peut en cacher un autre. Je rejoins dans un épisode spécial mon associé Thomas Bensazon.
C'est moi.
C'est toi. Car on a décidé, chez Feuilles Blanches, de participer au plus grand rassemblement caritatif des podcasteuses et podcasteurs francophones. J'ai nommé le Podcaston.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Mais c'est du podcast! Du podcast!
Oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
Bienvenue dans cet épisode spécial 40 nuances de Next Podcaston. Le brief était simple, consacrer l'un de nos épisodes à une association, ONG ou une grande cause de notre choix. Et c'est à l'unisson que nous avons choisi le mouvement Tilt, créé par Lorraine Derville. Salut Lorraine.
Salut Solène, salut Thomas.
Hello.
Bon Thomas, je t'ai volé l'intro de ce podcast. On a l'habitude de m'entendre dans 40 nuances de Sista. Je rappelle que tous les deux, nous sommes les cofondateurs du studio Feuilles Blanches qui travaille la narration des marques et des entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous allons pour une première presque mondiale co-hoster cet épisode.
Tu m'as volé l'intro, mais j'ai gardé la télécommande qui me permet d'envoyer des jingles. Je me sens en partie chez moi encore. Ravi de t'avoir à ce micro, Lorraine. Je vais faire un petit spoiler en disant qu'on se connaît. Et c'est pas pour ça qu'on t'a choisi. Tu dois le savoir, 40 nuances de Next, 40 nuances de Sista regroupe les champions de la tech française. Et on s'est demandé quel assaut, quel mouvement pouvait leur parler particulièrement. Et toi, ce que tu as fait avec Tilt, ça devrait leur parler. Je me rappelle dans des épisodes très récents, celui de Thibaut Chary, de Yes Park ou de Julien Tchernia d'Équateur, la prise de conscience quand même assez globale du fait qu'on est dans un monde fini et qu'il va peut-être falloir prendre des décisions courageuses si on veut sauver l'humanité. T'es pas Superman, mais t'es pas loin d'être une superwoman. C'est surtout que t'as une approche écosystémique qu'on trouvait intéressante de pousser aujourd'hui. Donc, bienvenue dans 40 nuances de Next, format podcaston.
Pitch of a pitch. Pitch of a pitch.
Lorraine, il y a une petite tradition dans ce podcast, c'est le pitch. Et pour que tout le monde sache ce qu'est le mouvement Tilt, on te laisse le micro.
Merci beaucoup. Alors, le mouvement Tilt, c'est un mouvement philanthrope qui a pour objet d'accompagner l'écosystème associatif dans sa transition écologique. Les constats, en fait, qui nous ont mis en mouvement, c'est qu'on a en France un très bel écosystème au service de l'intérêt général et du bien commun. Il y a 6600 fondations, 14 milliards d'euros par an qui vont des fondations vers l'écosystème associatif et un malheureux pourcentage autour de 3 à 7% qui vont sur les causes environnementales. En parallèle de ça, on est conscient, lucide, des enjeux autour du climat et des autres enjeux environnementaux regroupant toutes les limites planétaires. Et il est temps d'agir sur ces sujets-là. Enfin, le troisième constat, c'est que le monde associatif aujourd'hui est très peu accompagné sur les dynamiques de transition écologique.
On pourrait penser qu'on va faire beaucoup d'actions pour porter très fort, très haut ces assos dédiés à l'environnement. Quand je parlais d'un mouvement écosystémique, toi, tu as vu quelque chose de plus large.
Exactement. Donc, c'est de ces constats-là qu'on s'est dit que toute la philanthropie, les acteurs de la philanthropie devaient s'unir, agir en collectif, en mécénat collectif, pour avoir un impact plus systémique. L'idée, c'est de pas déshabiller une cause pour en habiller une autre, mais c'est de faire en sorte que finalement la durabilité, la soutenabilité environnementale, elle devienne une brique composante de chacun des projets associatifs qui se déploient sur le terrain. Et donc, notre outil, notre méthode pour y arriver, ça a été d'initier cette dynamique de mouvement philanthrope pour ensemble rassembler des fonds et créer des parcours, mettre à disposition de l'écosystème associatif des parcours d'accompagnement à la transition écologique.
Tu as quelques exemples à nous donner ?
Alors, sur comment ça se déroule concrètement, le parcours d'accompagnement, il est en 4 temps. On a d'abord un diagnostic, un état des lieux de ce que fait l'association, où est-ce qu'elle en est dans son niveau de maturité sur ces enjeux de transition écologique. Et en fonction de là où elle se situe, on l'accompagne sur un parcours en 3 étapes, qui est d'abord une sensibilisation pour prendre conscience des enjeux, transformer la tête et le cœur aussi pour se mettre en mouvement long terme. Ensuite, la mesure, les accompagner pour savoir où est-ce qu'elle en est, se situer et pouvoir se mettre en action. Et puis le dernier point, c'est le se mettre en action, donc activer un plan de transition au-delà.
C'est l'objectif, se mettre en action.
Voilà. Au-delà de la transition qu'on résume souvent à la transition bas carbone, on veut aussi impulser des dynamiques d'adaptation et de régénération, ce qui est encore peu diffusé dans l'écosystème associatif.
C'est quoi la régénération ? J'ai une petite idée, mais je veux bien que tu le développes.
Ouais, la régénération, en fait, c'est le constat que aujourd'hui, finalement, le développement durable n'est peut-être plus suffisant vis-à-vis des enjeux. Vous connaissez certainement les limites planétaires. On en a dépassé 6 sur 9. Donc, diminuer notre impact négatif n'est plus suffisant. Demain, ce qu'il faut, c'est aussi être des acteurs pour réparer, régénérer les écosystèmes et aller plus loin sur la régénération, qu'elle soit environnementale ou sociale.
Lorraine, t'évoques les 9 limites planétaires. Perso, j'ai une formidable amie qui m'a fait découvrir la fresque du climat pour mieux me sensibiliser. Malgré tout, je pense pas être capable de citer les 9. Alors pour quelqu'un qui a pas du tout été sensibilisé, c'est peut-être pas plus mal de rappeler quelles sont les limites. Et puis ensuite, on va discuter de ce qu'on peut mettre en place.
Ouais, avec plaisir. Donc effectivement, la fresque du climat, elle est plutôt orientée enjeu climatique, qui est l'une des 9 limites planétaires, le changement climatique. Il y a aussi l'acidification de l'océan, la perte, l'érosion de la biodiversité, l'artificialisation des sols ou le changement d'usage des sols, le cycle du phosphore et de l'azote, tout ce qui est autour de l'ozone stratosphérique, du cycle de l'eau, ça c'est la dernière limite qui a été dépassée en 2023, l'introduction de nouvelles entités dans notre écosystème, donc c'est tout ce qui est polluant et notamment les plastiques, et puis enfin la concentration en aérosol de notre atmosphère. Donc en fait, il faut avoir vraiment une vision systémique sur ces enjeux environnementaux qui sont les limites sur lesquelles il ne faut pas trop dépasser, même s'il y en a 6 aujourd'hui qui sont dépassées. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de le remettre en perspective avec aussi les besoins sociétaux. Et donc, pour ça, je m'appuie sur les travaux de Kate Raworth, qui est la théorie du donut, c'est-à-dire à l'extérieur de ce donut, on a les 9 limites planétaires à ne pas dépasser ou à restaurer quand on a déjà dépassé ses limites. Et à l'intérieur de ce donut, c'est la zone de sécurité, de vie,
pour l'être sûre
humain et épanouissante pour l'être humain, avec 11 éléments qui constituent le plancher social. Et je pense que c'est intéressant de le remettre en perspective aussi dans ce podcaston, puisque les associations d'intérêt général qui vont participer sont des acteurs justement qui participent à ce centre du donut.
Lorraine, quand on t'écoute, ça peut sembler très technique tout ça. Comment on fait finalement pour intéresser le plus grand nombre sur ces sujets et pas se dire oh là là, je comprends rien, je vais garder à la limite juste les déchets et puis le reste, quelqu'un d'autre va s'en occuper.
Ouais. Écoute, t'as raison, parce que c'est très scientifique, tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'outils de pédagogie de la transition qui permettent de gamifier finalement la compréhension de ces enjeux. Donc, je prends tout ce qui est fresque, atelier, etc., où on peut comprendre en jouant en se mettant en action toutes ces dynamiques qui sont très scientifiques. Tout à l'heure, Thomas a cité la fresque du climat. C'est 42 cartes qui résument le rapport du GIEC, qui est quelque chose d'extrêmement complexe à lire et à digérer, même s'il y a des synthèses pour les décideurs qui sont plus abordables. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plein d'outils à la fois qui rendent compréhensible et ludique l'approche de ces éléments. On parlait des limites planétaires. Il y a une fresque des limites planétaires à faire autour de l'océan pour comprendre l'acidification des océans, autour de la biodiversité pour comprendre l'effondrement, etc. La fresque du plastique. Voilà, il existe plein de choses. Et surtout, ce que je dirais, c'est que toutes ces initiatives, elles le font dans une dynamique de rendre joyeux la transition, joyeux et désirable. C'est-à-dire qu'on se met dans une action positive qui donne du sens et de l'espoir pour le futur. C'est pas du tout
anxiogène,
on ressort complètement déprimé.
Moi, ça m'angoisse. On se parle entre nous, mais ça a l'air tellement conséquent, tout ce qui est à faire. On peut toujours remettre, comme disait Solène, je m'occupe de ça et puis je laisse faire les autres. Et puis on a toujours l'impression que son impact sera pas suffisant. Mais objectivement, moi, ça m'angoisse.
C'est aussi quelque chose qui est largement reconnu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont éco-anxieux, qui ont de l'éco-anxiété parce que l'enjeu est tellement énorme qu'on a plutôt tendance à pas aller trop creuser le sujet pour s'en protéger presque. Moi, de mon expérience personnelle, je partagerais plutôt le fait que se mettre en action, c'est sortir de la peur, du petit lapin qui est dans les phares et qui est complètement tétanisé. En fait, si demain il comprend que c'est une voiture qui arrive, il va savoir réagir. Donc voilà, c'est aussi se mettre en action, comprendre ses enjeux. Ça permet de sortir de ces dynamiques anxiogènes et faire intégrer des communautés. Encore une fois, je partage mon expérience personnelle, mais moi, j'ai intégré très rapidement la communauté des Shifters, liée à The Shift Project, un think tank qui pense la transition bas carbone. J'ai intégré des communautés actives comme les Fresqueurs, Fresque du Climat, l'atelier d'Automne. J'ai rejoint Team for the Planet dans les associés et les Galaxies d'Action, etc. Et en fait, c'est dans ces communautés-là que j'ai appris, que je me suis enrichie, que je me suis nourrie et que je me suis mis finalement dans une action très positive qui me donne plutôt de l'espoir et qui font que je fais partie de la tranche de population hyper heureuse de faire partie de cette génération qui va être...
De pionniers,
ou en tout cas de bascule civilisationnelle. On est vraiment à un changement de société aujourd'hui, et ce qui est super chouette, enfin quand même si c'est très conséquent et grave ce qui arrive... à la fois sur un volet sociétal et environnemental, on est acteur d'une société qui va gagner en sens, en cohésion. On va revenir sur des éléments fondamentaux de la vie en collectivité, de la manière dont on vit, dont on interagit avec le vivant, etc. Donc, moi, personnellement, je suis hyper enthousiaste et hyper optimiste parce que je pense qu'on est dans une génération très chouette pour cette bascule.
Le mouvement TILT, c'est aujourd'hui le regroupement de 6 fondations, 7.
Alors, si je peux me permettre de reprendre un tout petit peu, on est un jeune mouvement, il est officiellement créé en 2023, mais on y œuvre depuis 2022.
Et ça va vite.
Ça va...
Jamais assez vite.
Ça va vite, mais en intelligence collective, c'est ce que j'allais dire. En 2022 et 2023, on a posé le socle, on était 15 cofondateurs autour de la table. L'idée, c'est vraiment de faire de l'intelligence collective dès la racine du mouvement. Et on s'est structuré sous forme associative d'intérêt général au service du bien commun en juillet 2023. Donc, vous voyez, on a juste 8 mois. Et aujourd'hui, effectivement, dans la gouvernance, on a 6 fondations, personne morale et un président en personne physique.
Fondation de France, Fondation SNCF, Fondation RTE, Mobivia, Citrus et Doumoro.
Exactement.
Et tu parlais d'une personne physique, Guillaume
Quelin, qui est un expert climat qui travaille au GRET.
Et bien justement, il y a une question pour toi. Super transition.
Vous avez un message.
Bonjour Lorraine. L'urgence climatique et l'érosion de la biodiversité guident tes nombreux engagements. Face à ces enjeux pressants, beaucoup pourtant reste à faire. Comment arrives-tu, toi, à ton échelle, à concilier le temps de l'urgence au tempo de la construction d'une démarche collective qui prend nécessairement du temps ?
Merci Guillaume. Effectivement, il met le doigt sur un point très important, c'est-à-dire que moi, je suis à l'initiative de cette dynamique et au démarrage, je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'y vais seule et je déroule quelque chose que j'ai en tête, que j'ai envie de voir aboutir et puis j'ai de l'impact tout de suite, ou bien est-ce que je pense collectif et donc ça mettra plus de temps à prendre racine, mais ces racines, elles seront bien plus solides parce qu'elles seront issues de l'ADN de chacune de ces structures qui a apporté son expérience.
Et qui s'y engage.
Et qui s'y engage. Et surtout, l'aventure que moi, j'avais imaginée il y a 18 mois, c'est pas du tout celle qu'on a écrite. Parce que quand on est 15 stylos autour de la table, c'est plus long, mais c'est beaucoup plus riche, ce qu'on construit. Donc, c'est un peu bateau comme phrase, mais ce que je dirais, c'est qu'effectivement, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est clairement ce qui s'est passé avec le mouvement Tilt, ce qui se passe encore actuellement. Et je pense qu'en fait, l'accélération, elle vient un peu plus tard quand cette base, ce socle est vraiment solide et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, on va se déployer beaucoup plus rapidement que si j'étais partie seule. Donc, entre guillemets, on a concilié un temps un peu plus long en intelligence collective pour le démarrage, mais ça va être un vecteur d'accélération pour la suite.
Pour pouvoir scaler, il faut un bon produit. C'est le petit parallèle avec ce que doivent avoir l'habitude d'entendre nos auditeurs.
Ouais.
Tes next steps rêvés avec le mouvement Tilt ?
Alors déjà, faire mouvement. Parce qu'on est un jeune mouvement naissant. On vient juste d'ouvrir la porte à des nouveaux acteurs de la philanthropie pour qu'ils nous rejoignent. Donc, vous l'avez entendu, on est aujourd'hui 6 officiellement engagés, des mécènes qui ont aussi mis au pot commun. L'enjeu, c'est de faire venir d'autres mécènes, partenaires, pour réussir nos ambitions. Et nos ambitions, si je vais un petit peu sur les next steps, c'est de poser une plateforme web performante sur laquelle on va pouvoir à la fois partager du savoir et à la fois mettre à disposition des outils de pilotage de la stratégie environnementale des associations. Donc, on a un gros enjeu autour de cette dynamique collective. On a un projet majeur autour du socle tech qui va soutenir ce projet. Surtout, comme on est en phase de démarrage, on est en phase apprenante. Cette année, on déploie des pilotes avec des associations parce que ce qu'on veut, c'est aussi co-construire avec l'écosystème associatif, bien sûr, à qui est destiné nos programmes. Donc, tester sur le terrain, faire remonter les bonnes pratiques et finalement faire évoluer les parcours qu'on a imaginés pour qu'ils correspondent au mieux aux besoins de l'écosystème associatif.
Et ce que tu nous disais off-micro, juste avant qu'on commence, c'est que tu avais des fondations, tu avais des fonds, mais en fait, c'est tout l'écosystème philanthropique. Donc, il peut aussi y avoir des individus qui peuvent participer au mouvement.
Oui, tout à fait. En fait, la philanthropie prend un essor assez fort en France et sous différents formats. Il existe déjà plein de statuts possibles, fondations d'entreprise, fonds de dotation, fondations d'utilité publique, etc., etc., fondations sous égide. Et il y a aussi le philanthrope, la personne philanthrope qui décide de partager une partie de son patrimoine, de son salaire mensuel, etc., pour participer à des causes d'intérêt général. Et donc, avec le mouvement Tilt, en fait, nous, on fait un appel au commun pour avoir un impact plus fort collectivement, ce que parfois les personnes ne peuvent pas porter à leur niveau. Ils veulent participer à quelque chose, mais ils veulent s'allier à une coalition, à des acteurs qui sont forts et qui pourront porter des projets à impact intéressant.
Tu t'es inspirée de mouvements existants pour créer le mouvement Tilt. Comment c'est né, en fait ?
Alors, dans l'écosystème de la philanthropie, il y a quelques mouvements de mécénat collectif qui existent, mais finalement, c'est assez anecdotique. Je dirais, en tout cas, sur la philanthropie à la française, la philanthropie est plutôt individuelle. Elle est très belle, mais chacun son domaine d'intervention, chacun sa cause, chacun ses...
son couloir de nage.
Chacun son couloir de nage, voilà. Donc, on est, je pense, en France encore aujourd'hui un peu trop siloté, même s'il y a quelques initiatives qui sortent du lot. Hein. Il y a eu notamment le fond du 11 janvier après les attentats de Paris qui avait amené à fédérer aussi des fonds. Il y a la Fondation Nature et Découverte qui fait des appels à communs autour de l'éducation. Voilà, il y a plusieurs dynamiques comme ça. Il y a une coalition des fonds et fondations en France pour le climat, la CFFC, qui a été initiée par le Centre français des fonds et fondations. Mais voilà, donc il existe déjà des choses. On s'est inspiré de ça. Par contre, on sait qu'on est encore, entre guillemets, encore un peu à contre-courant des pratiques traditionnelles qui se font. Donc, on a quand même un enjeu de faire changer, en tout cas d'amener à de nouvelles pratiques les acteurs philanthropes pour viser un impact plus systémique, pas seulement saupoudrer chacun sur les associations, mais mettre en commun pour viser plus grand, pour viser plus large et vraiment créer une bascule sur ces enjeux.
À ce sujet, on a une autre question surprise pour toi.
Vous avez un message.
Bonjour Lorraine, c'est Elodie de la Fondation RTE. J'ai une question pour toi. Quelles ont été tes motivations profondes pour t'engager au début de ta carrière dans le secteur du mécénat et de la philanthropie ? Bon podcast.
Car en effet, tu n'en es pas à tes débuts sur ce sujet de la philanthropie.
Ouais, merci Elodie. Mes motivations. Alors, pour être totalement honnête, je suis tombée un peu dedans par hasard. Je vais me dévoiler un peu personnellement, mais je fais partie d'une famille entrepreneuriale française. Et quand à 18 ans, on m'a dit, bah voilà, ça y est, t'es actionnaire, t'as des actions, et puis un jour, tu toucheras des dividendes de ces actions, potentiellement, si l'entreprise tourne correctement. J'ai pas bien compris, moi, mon rôle en tant qu'actionnaire, qui un jour allait bénéficier de quelque chose pour lequel j'avais pas contribuer opérationnellement au quotidien. Et c'est ça qui m'a poussée à toquer à la porte de cette entreprise familiale et de dire « Ok, super, je suis ravie de faire partie de cette aventure entrepreneuriale familiale, mais j'aimerais m'investir d'une manière ou d'une autre dans les enjeux opérationnels. » Et c'est comme ça qu'on m'a ouvert la porte de la Fondation Noroto à l'époque. Moi, j'étais sur des sujets humanitaires et développement. Je suis de formation ingénieure en agroéconomie du développement, donc j'étais loin des sujets de mobilité. Et donc, je suis rentrée dans l'entreprise par le volet solidarité, mécénat, philanthropie. Et donc, j'ai œuvré pendant très longtemps dans les conseils, puis j'ai pris la présidence il y a 4 ans de la fondation que j'ai transformée pour qu'elle prenne, que j'ai transformée pas moi, avec toute l'équipe opérationnelle, parce que j'étais présidente, donc c'est non opérationnel, non salarié, hein, bénévole, pour voilà, transformer l'outil philanthropique pour qu'il prenne la mesure de l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire plusieurs pays, plusieurs marques, plusieurs enseignes. Et dans ce cadre-là, j'ai repassé la main au PDG du groupe, ex-PDG du groupe depuis peu, Fabien Derville. Mais voilà, juste pour répondre à Elodie, je pense que un peu plus, pour prendre une vision un peu plus macro, je pense que l'engagement bénévole, ça fait partie intégrante de mon fonctionnement et c'est ce qui a nourri et construit chacun des jalons de ma vie personnelle aussi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai donné à la société un peu plus tôt. Ça m'a nourri, ça m'a fait rencontrer du monde, ça a tissé mon écosystème et ça m'a amené jusqu'à cette dynamique entrepreneuriale, assopreneuriale de création du mouvement Tilt.
Tu évoquais rapidement la transformation de la fondation Mobivia au moment où tu en avais la présidence. On va pas faire tout le format là-dessus, mais juste pour comprendre à un moment l'impact que tu peux avoir au moment où tu es à la tête d'un projet. Ça veut dire quoi pour une fondation comme Mobivia sur la mobilité ?
Ce qui est très intéressant dans l'outil philanthropique, c'est surtout que ce soit un outil pour l'interne, pour fédérer l'énergie des collaborateurs sur des sujets de sens, d'engagement, et ça permet aussi de fidéliser les collaborateurs, de leur donner la fierté, l'appartenance à la structure, etc. Donc, la fondation, elle, ça dépend hein, des stratégies, mais quand elle vient d'une entreprise, elle est aussi tournée vers les collaborateurs pour que ça devienne cet outil d'engagement. La fondation Noroto, elle était en place depuis très longtemps, elle faisait des projets magnifiques qui tournaient très bien. Toutefois, on n'avait pas pris le virage de l'évolution du groupe Mobivia, qui est devenu, sur ces 18 dernières années, un écosystème entrepreneurial avec 26 marques dans 19 pays. Et il était temps, finalement, que notre organe de solidarité dépasse les frontières et devienne un outil pour tout l'écosystème, tous les collaborateurs du groupe et des marques. Donc, voilà, je pense que l'enjeu, il était là. Et à la présidence, on peut impulser des grands projets d'ampleur pour donner cette dynamique de sens.
Il y a eu des réticences ?
Il y a eu des réticences, oui, parce que souvent la philanthropie est liée à une marque. Or, Mobivia, pour ceux qui nous écoutent, ne connaissent pas, parce que c'est un groupe qui regroupe plein de marques. Noroto, c'est une marque, les gens connaissent, comprennent. Et donc, il y a eu des réticences, notamment sur le fait de perdre l'identité d'une fondation et puis l'historique de tout ce qui avait été mené. Mais je pense qu'on l'a fait de la même manière, de manière très collective, contributive, avec un certain nombre de salariés qu'on a interrogés, mobilisés sur ce sujet d'évolution de la structure philanthropique. Et le résultat, qui est aujourd'hui la nouvelle Mobivia Foundation, c'est le fruit d'un travail collaboratif. Donc nous, on a impulsé quelque chose, mais on s'est bien sûr assuré que la plupart des parties prenantes étaient bien sûr dans cette direction. Donc quelques résistances, mais finalement, ça fait sens pour la grande majorité des personnes.
Je reste sur la notion de résistance, de frein, même de limite. Tout à l'heure, on parlait des 9 limites planétaires. Aujourd'hui, quelles sont les limites que le mouvement Tilt doit dépasser pour aller encore plus loin? Est-ce que c'est dans le recrutement de fondations? Est-ce que c'est dans le déploiement opérationnel? Est-ce que c'est dans la visibilité, comme on est en train de le faire là?
Oui. Les trois, mon capitaine.
Je peux rajouter d'autres limites. On peut arriver à 9 hein, en cherchant bien.
Certainement, visibilité, crédibilité, parce qu'on est un jeune mouvement. On doit se faire une place aussi dans cet écosystème. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aller un peu faire changer des modes opératoires, des fonctionnements qui sont enracinés dans notre philanthropie, encore une fois, je dis à la française, parce que c'est quand même très différent dans d'autres pays. Donc, on doit gagner en éléments de communication, de visibilité. Bien sûr, pour réussir nos ambitions, il va falloir qu'on aille chercher des fonds. Aujourd'hui, les 6 premiers cofinanceurs, mécènes, partenaires ont mis des enveloppes sur la table, mais on est en phase émergente. Et ces premières enveloppes, qui sont quand même une prise de risque hein, pour eux, puisqu'on est au démarrage, ne sont pas suffisantes pour mener à bien les ambitions qu'on s'est fixées. Et donc, un des premiers gros enjeux, c'est effectivement d'aller avoir d'autres mécènes, d'aller récolter des fonds pour réussir à avoir nos budgets prévisionnels. Et deuxièmement, poser le socle tech qui sera une brique fondamentale sur lequel ensuite on pourra déployer la mise à l'échelle du mouvement, le scale-up, comme tu dis.
C'est gentil.
Parce que ça concerne aussi les associations, le scale-up.
Oui, tout à fait. Mais en fait, mener un projet associatif, c'est de l'entrepreneuriat. Donc,
tu m'as volé une question.
Complètement. Et ça me faisait penser à Lucie Declerc que j'ai reçue dans 40 nuances de Sistade d'entourage, qui disait, mais en fait, on a exactement les mêmes problématiques qu'une, entre guillemets, boîte normale en association. Donc, merci de le rappeler. Et tant pis si elle t'a volé ta question.
C'est pas grave. Tu veux voler celle d'après?
Je sais pas. Bon, je voulais juste te dire que j'adore Entourage et ce qu'ils font. Voilà. J'aime beaucoup Lucie.
Eh bien, coucou à Lucie, alors.
Eh bien, c'est dit. Tu parlais de crédibilité, quand même, malgré tout. Avec des noms comme ça, ça me paraît relativement facile d'aller voir d'autres fondations et de leur dire, après, les faire débourser, c'est peut-être encore un sujet. Mais sur la crédibilité, moi, j'ai l'impression qu'en très peu de temps, tu as réussi à sacrément bien t'entourer pour faire boucler la boucle.
Avec Entourage.
Voilà.
Quand même que je prenne des leçons avec Jean-Marc Potvin qui a monté Entourage et qui est très très fort pour bien s'entourer. Oui, on a des très beaux noms, mais je reviens sur un point que j'ai déjà dit. Aujourd'hui, on a une approche qui est innovante, différente de ce que la philanthropie a l'habitude d'avoir. Et donc, parfois, j'ai des discussions avec des fondations qui trouvent le projet génial, qui me disent « Ah, mais c'est super, il y a une vraie cohérence par rapport aux enjeux, ça fait sens, etc. » On a une super discussion.
On et sent à la le fin, mai arriver.
Exactement. Et à la fin, c'est « Mais par contre, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon domaine d'intervention. » Par exemple, c'est génial, mais moi, j'agis sur les thématiques d'éducation. Mais moi, j'agis sur les thématiques d'insertion des personnes réfugiées. Et ce qu'on cherche à faire, justement, c'est à casser ces silos et à dire, certes, indépendamment de votre domaine d'intervention, on a tous la nécessité d'avoir des opérations, des soutiens financiers, etc., qui soient respectueux sur les enjeux, ou en tout cas soutenables vis-à-vis des enjeux environnementaux. Et donc, il faut qu'on fasse infuser la cause de durabilité dans tous les domaines d'intervention. Demain, il faudra que ça soit plus...
Que ça soit une ligne de budget, en fait, finalement, pour tout le monde. Et que... Parce qu'aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est qu'on arrive... Tu ne rentres pas dans la bonne case, en fait.
Ah oui, oui. Parce moi, je suis un projet dans rond dans qui ne rentre pas dans les carrés.
Oui. Donc, en fait, l'idéal, ce serait que, à terme... Très vite, tout le monde ait cette ligne de budget transversale sur ces problématiques-là.
Ça serait super.
Bon, on passe le message.
On peut imaginer, en plus on avait déjà eu cette discussion il y a un petit moment, mais d'embarquer les entreprises dans ce projet et pas que les fondations. On a beaucoup d'entrepreneurs qui, à titre individuel, doivent pouvoir peut-être s'impliquer, comme mécènes. Mais côté entreprise, est-ce qu'on a un peu de pouvoir d'action?
Oui, clairement, moi, je pense que le monde privé est un acteur majeur de la transition écologique, en tout cas pour vraiment mettre en place des éléments phares de l'évolution de nos modèles. En fait, aujourd'hui, on a commencé par un bout du chemin, mais il y a effectivement plein de fils sur lesquels on peut se raccrocher et puis tirer les bobines. Donc, on est en train de faire nos premiers pas. On a pris une direction... d'un côté, les acteurs qui se réunissent, ce sont les fondations, les fonds de dotation, enfin, les acteurs de la philanthropie, et les bénéficiaires, ce sont les associations d'intérêt général. Mais demain, on peut imaginer aller bien plus loin. Je parle notamment des bénéficiaires qui sont pas seulement les associations, là, des fondations viennent à moi pour me poser la question de savoir comment eux vont être accompagnés aussi. Donc, c'est déjà une brique qui commence à s'inscrire pour 2025. Et côté amont, c'est-à-dire pas seulement fondations, fonds de dotation, mais des mécènes, des entreprises mécènes qui décident de soutenir ce projet, soit de manière numéraire avec des enveloppes financières, soit de manière avec des compétences.
Mécénat
en compétences, ouais. Où elles peuvent mettre à disposition des personnes qui participeront à ces parcours d'accompagnement à la transition pour appuyer l'écosystème de l'intérêt général.
Moi, j'ai envie de te donner les pleins pouvoirs juste pour voir ce que ça donnerait. Je sais pas ce que t'en penses.
Allez, go.
Parce que c'est notre projet.
Des fois, on a l'impression sur ces sujets de s'égosiller dans le vide.
Alors, mon projet. Alors, ouais, écoute, c'est chouette quand même d'avoir plein pouvoir. Et comme vous m'aviez demandé de réfléchir un peu, j'ai préparé, c'est pas un programme, hein. C'est un peu...
Il y en a pour 3 heures.
Non. Bon, la première mesure très simple que je vais mettre en place, ça va pas trop vous surprendre, c'est que je vais reprendre les travaux de la Convention citoyenne pour le climat et je vais appliquer les 149 mesures que cette convention citoyenne a mis en œuvre. Pourquoi ? Un, parce que c'est hyper pertinent, le travail qu'ils ont réalisé, et que ça va permettre de tenir nos objectifs, qu'ils soient nationaux, la stratégie nationale bas carbone, la résilience des territoires, mais aussi plus global, Fit for 55 en Europe, accord de Paris au niveau mondial. Voilà, c'est très intéressant sur le fond, mais surtout sur la forme. C'est-à-dire que ça a été des citoyens tirés au sort de toute classe, de toute formation, etc., qui se sont réunis sur un enjeu majeur et qui ont réussi collectivement parce qu'ils ont été sensibilisés, éduqués, amenés à réfléchir avec l'ensemble des connaissances, à prendre des décisions bénéfiques pour l'ensemble de la société française. Donc, C'est ma première mesure et je m'appuie, j'en lance d'autres en fait, des conventions citoyennes sur d'autres aspects parce que je trouve que le modèle est hyper pertinent. Et j'en ai cité quelques-unes comme ça, mais en tout cas, pour une transformation sociétale juste et désirable, je pense qu'on pourrait lancer une convention citoyenne sur les besoins essentiels. Qu'est-ce qu'on préserve à tout prix pour notre société ? Sur quoi, du coup, on a des mécanismes de résilience de certains aspects qui font que c'est notre socle fondamental. Et ça nous permettra aussi d'identifier ce qui est superflu et ce dont on peut se passer pour des vrais mécanismes de sobriété ou de disparition de certains pans de notre société, de notre économie qui ne sont pas nécessaires au quotidien. On pourrait avoir une convention citoyenne sur les nouveaux récits pour imaginer demain et faire infuser à travers nos médias, nos télés, nos radios, la vision d'un futur souhaitable, désirable. Une convention citoyenne sur la post-croissance ou les nouveaux indicateurs de référence pour sortir des traditionnels pouvoirs d'achat et croissance du PIB qui sont aujourd'hui, à mon sens, obsolètes vis-à-vis des grands enjeux de notre temps. Ou alors encore sur le temps de travail, l'engagement bénévole, puisqu'on est dans le podcaston. Si demain, imaginons, cette convention citoyenne nous disait qu'on passe tous à la semaine de 4 jours et que le 5e jour, on l'a pour un temps d'investissement bénévole au service de l'intérêt général. On pourrait faire plein de choses, donner du temps à son club de sport, on pourrait aller lire des poèmes dans une maison de retraite, on pourrait aller animer une fresque dans sa commune, que sais-je, en tout cas participer à la vie collective. Et j'ai encore juste un petit point. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que là, vous me dites, moi, présidente, plein pouvoir, je pense que le mécanisme de démocratie participative qui fait que ce sont les citoyens qui réfléchissent à des mesures qui peuvent être appliquées pour tous, c'est un mécanisme très intéressant. Donc, c'est pour ça que je m'appuierai là-dessus. Et pour qu'ils y arrivent, il y a quand même 3 réformes socles que je mets en place. La première, c'est de sensibiliser massivement sur ces enjeux pour que chacun prenne conscience de l'état dans lequel on est aujourd'hui et des grands challenges qui vont se présenter à nous. Le deuxième, c'est que j'impulserai quand même des réflexions autour du revenu inconditionnel d'existence ou revenu universel, il y a plusieurs noms, pour assurer un socle de sécurité pour que finalement certaines personnes, certains pans d'économie puissent disparaître sans abîmer le côté social, sociétal, qu'il y ait un équilibre, une sécurité. Et le troisième point que je trouve très intéressant pour encore dans mes réformes de base, ça serait de mettre en œuvre le quota carbone individuel. Et ce quota carbone individuel, ça deviendrait finalement une nouvelle mesure au-delà de l'unité euro pour que demain, chaque individu, dans une liberté individuel puisse faire ses propres choix par rapport à sa vie, à son quotidien, à sa liberté. Et je termine. Et que quand même, demain, ça devienne un nouvel indicateur de choix pour orienter la société vers un avenir soutenable.
Ce que vous ne voyez pas, c'est que Thomas piaffe d'impatience.
Du coup, j'ai pas réussi à terminer. Vas-y.
Non, je te laisse terminer, mais en fait, j'ai envie de rebondir sur à peu près tout, mais je te laisse terminer.
C'est bon. Donc, en tant que présidente, j'ai mis 3 réformes socles en place pour sécuriser et impulser une dynamique de transformation. Et ensuite, je lance plusieurs grandes conventions citoyennes qui nous permettront de réfléchir sur du long terme à des enjeux de transformation de société.
Tu vas être embauchée pour les programmes de 2027, là.
Olaf.
Non, mais déjà, j'aime bien ta logique. On t'a donné un thème, on te donnait plein pouvoir et t'as vraiment bossé en demandant le socle. Je projette pour l'avenir. Et ça, c'est souvent ce qu'on demande aux politiques. C'est une vision un peu long terme. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut tous partager l'envie d'habiter sur une planète plus saine, et pour elle-même et pour les êtres humains qui s'y trouvent. Une fois qu'on a dit ça, et quand on parle de politique, bah souvent on est obligé de trouver l'équilibre, la nuance entre des injonctions très contradictoires, et c'est pas pour rien que on a eu les bonnets rouges en Bretagne ou les gilets jaunes. Donc dès qu'on essaie d'aller sur un curseur, bah, ça frotte dans notre pan de société, et c'est vrai que c'est, je trouve, difficile de trouver la combinaison de mesures qui fait qu'on est capable de passer d'un modèle à l'autre sans trop de friction. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas sans friction. Enfin, un moment, j'aimerais qu'on nous le propose. Autre sujet, sans aller dans le fond de ce qui peut être dit dans les conventions citoyennes et réfléchir comment on met les experts autour pour partager la fameuse connaissance qui va permettre la prise de décision, je voulais juste nuancer en disant que la majorité n'a pas toujours raison. Je glisse ça là et on verra bien en 2027, mais moi ça me fait peur. Deuxième réflexion. Tu parlais tout à l'heure d'une approche très scientifique de tout ce qui gouverne aujourd'hui le mouvement Tilt, mais pas que. Y a aussi beaucoup de défiance envers la science, portée, j'ai l'impression, par des algorithmes sur les réseaux sociaux. En fait, tu parlais des rapports du GIEC, ça doit pas faire tellement de vues, là où des choses très anodines et très superflues embarquent finalement beaucoup plus de monde, et c'est triste. Et le dernier point, et en plus je crois qu'on avait déjà eu ce débat sur le quota carbone individuel, où là aussi je vois des levées de boucliers évidentes dès l'instant où on décide. Et ce que je trouve intéressant, c'est de dire tu peux prendre l'avion, on te dit pas je t'interdis de prendre l'avion, par contre si tu prends l'avion, bah ça va te coûter cher en crédit carbone individuel. Donc tu prends tes décisions en bonne intelligence à partir de ton budget carbone. Une fois qu'on a dit ça, pour le mettre en place, ça veut dire être capable de tout tracer, toute action individuelle, tout achat. Et alors là, je vois déjà les levées de boucliers en disant, mais en fait, c'est pas pour rien qu'on voulait avoir du cash et pas que des cartes bleues. C'est parce que il y a une notion de liberté aussi individuelle. Et donc, je sais que tu vas pas prendre la présidence demain, mais je voudrais juste pour les personnes qui réfléchissent à ça, se dire qu'il y a des levées de boucliers, qu'il va falloir les préparer si on veut aller vers ça. Voilà.
Tout à fait.
Pardon, pour ce long monologue qui n'était même pas une question.
J'avoue. Non mais tout à fait d'accord avec ces points. Hein. Là, je me suis amusée à mettre sur papier, mais tu as tout à fait raison, ça va être des changements majeurs qui vont créer beaucoup de défiance, de résistance. J'aurais envie de reprendre peut-être le côté, la métaphore qu'utilise Arthur Keller sur le junkie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, alors je vais le faire beaucoup moins bien que lui. Mais en gros, aujourd'hui, la société est droguée à des substances qui lui sont nocives pour elle. On est en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète. Donc, on va mourir de ça si on ne change pas. Donc, au début, quand on dit au junkie qu'il va falloir qu'il arrête, bah, il résiste. Il ne voit pas, c'est sa liberté de faire ce qu'il veut, c'est ses choix individuels,
son corps, ouais.
C'est son bonheur personnel, etc., etc. Et puis petit à petit, on amène des changements. Il y a des phases qui sont très dures pour sortir de cette dépendance. Effectivement, il va falloir se libérer de certaines choses, mais quand on a pris le recul et qu'on est sorti de ces dynamiques, on se rend compte qu'en fait, on est en meilleure santé, que ça va mieux psychologiquement, physiquement, etc. C'est un peu cette métaphore avec notre société qui est aujourd'hui malade et sous perfusion de plein de choses qui sont pas très bonnes. Et ça va être compliqué d'inverser la tendance et d'aller chercher d'autres mécanismes de vie ou d'économie. Mais que demain, on se rendra compte qu'en fait, c'était un peu dur sur le chemin, mais que le futur est vachement plus beau que le passé.
Et est-ce que, et en même temps, quand je vous écoute tous les deux, je suis complètement d'accord avec vous, on remarque que la génération qui arrive sur le marché du travail, c'est-à-dire celle qui est juste après nous, est beaucoup plus investie, beaucoup plus au courant, beaucoup plus intransigeante sur certains choix. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aujourd'hui, même si cette génération n'est pas encore à la tête des différentes fondations et des différents mouvements mis en place? Est-ce que tu y perçois un avenir et des choses qui s'éclaircissent?
Tout à fait. Alors, peut-être pour commencer, je dirais qu'il faut faire attention à cet enjeu de génération. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la cause de tous. peu importe l'âge qu'on a, peu importe le niveau de responsabilité, on a tous notre chemin à faire. Même les plus grands écolos ont encore des marges de manœuvre pour changer leurs habitudes de vie. Donc, premier point, on est tous concernés. Maintenant, effectivement, la génération qui arrive est plus consciente, parfois un peu désabusée de ce rythme de changement ou d'évolution, mais voilà, on aura moins à convaincre, on aura moins à sensibiliser une génération qui est déjà embarquée et qui aura des réflexes de vie, de mode de consommation, de mode de gestion ou de décision qui seront cohérentes avec ces enjeux autour de notre écosystème. Donc, voilà, il y a vraiment des choses qui sont super. Salomé Sacquet, elle a sorti un livre, « Sois jeune et tais-toi », qui est hyper intéressant. Camille Etienne aussi a fait un livre là-dessus sur voilà la jeunesse et la transition et ce qui arrive. Encore une fois, je pense que... je me considère encore jeune.
nous aussi, mais bon.
Mais voilà, à la fois... aujourd'hui, notre génération, mais encore plus celle qui arrive, on a une capacité, une possibilité de connaissance énorme avec notamment tous les podcasts, tout ce qu'on peut écouter pour grandir. Alors certes, il y a des algorithmes qui nous enferment dans certaines choses, mais si on tape sur Internet quelques mots-clés, on a une connaissance gigantesque qui peut nous permettre d'avancer dans notre niveau de conscience et d'action.
Donc, ces niveaux de conscience, ils se jouent de manière très individuelle. Tu le sais, hein, dans 40 nuances de Next et 42 systèmes, on fait souvent la passerelle, le pont entre le pro, le perso. Moi, je pense qu'on ira ensuite aussi dans ta vie personnelle, ce que ces engagements veulent dire. Je trouve ça super intéressant et en fait, ça permet de se projeter aussi très concrètement dans l'action individuelle qu'on peut avoir. Avant ça, je sais que Solène elle me fait des grands gestes.
Je voulais lancer la rubrique de la claque parce que je trouvais que la transition était parfaite avec le sujet d'avant.
Waouh! Ça fait mal.
Quelqu'un dit waouh après une claque.
Ouais, ça peut être agréable.
Waouh!
C'est notre en même temps à nous.
Ouais, la claque pour. Alors, je dirais que j'ai eu deux temps de claque. Pas une seule claque. J'ai eu.
C'est l'aller-retour.
Ouais.
Joue gauche, joue droite.
Voilà, et puis hémisphère droit, hémisphère gauche, l'émotionnel, le rationnel, il y a peut-être quelque chose comme ça. Le premier temps de claque que j'ai eu, ça a été 2015. Finalement, c'est assez récent, mais il y a eu des gros, gros événements cette année-là, notamment les accords de Paris. Tout le monde est bien au courant qui se passait donc chez nous. Donc, ça m'a vraiment touchée. Et là, je pense que j'ai pris mesure de ces enjeux climat. Enfin, j'ai commencé à prendre la mesure de ces enjeux climat, même si j'avais regardé des documentaires, tous ceux d'Al Gore, etc. Avant, j'étais pas encore vraiment dedans. Ensuite, en 2015, je travaillais encore pour Nutrisets aux côtés des Nations Unies et j'ai eu la chance d'assister à la naissance des ODD, en fait à la fin des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, et d'écrire les ODD d'ici à 2030, les 17 grands objectifs du développement durable. Et c'était hyper intéressant de voir la conclusion de ces grands enjeux, de cet agenda pour l'humanité et la projection des très grands défis qu'on allait avoir, auxquels on allait devoir faire face pour le futur. Et puis mon troisième point sur 2015, ça a été ma maternité. J'ai eu ma première petite fille, Maëlle. Et je pense que la maternité, ça m'a aussi amenée à relativiser ma posture humaine au sein du vivant. À comprendre aussi qu'il ne fallait pas toujours que j'ai la main sur les choses, que je contrôle les choses. En fait, concevoir un enfant dans son ventre, bah, il n'y a rien de notre cerveau, etc. Tout se fait naturellement. C'est quand même fou de se dire que la nature est aussi puissante jusqu'à ce qu'on donne naissance, etc. Et puis même les deux premières années de l'enfant qui construit son langage, etc. Voilà, ça m'a permis de reprendre une position à la fois humble, d'humaine dans une toile du vivant majeur et de compréhension globale des grands enjeux de l'humanité et des grands enjeux autour du climat. Et donc, ça a été mon premier point, je vais dire peut-être côté rationnel, sur OK, il faut que je me mette en mouvement. Je commence à me nourrir, je commence à me documenter, je commence à aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ces enjeux. Je m'engage dans des causes, je rejoins les shifters. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui me permettent finalement de grandir. Et puis, le deuxième point de bascule, côté émotionnel, ma deuxième grosse claque, c'est au cours d'une table ronde, je ne saurais même plus dire, j'ai réfléchi à ça en préparation, mais qui m'a fait réaliser ça? Mais je réalise qu'en fait, il y a deux éléments clés dont j'avais pas encore pris conscience. Les boucles de rétroaction, les effets d'emballement naturel du climat et les points de bascule. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais boucles d'emballement, c'est aujourd'hui, en tant qu'humain, on a toutes les cartes en main. On comprend les causes, on sait quelles sont les conséquences et on a aujourd'hui identifié les principaux leviers d'action pour mettre en œuvre la transition et c'est encore dans nos mains. Demain, les boucles de rétroaction naturelles, c'est-à-dire des phénomènes naturels, risquent d'amplifier les grands éléments de dérèglement climatique.
Sans qu'on puisse plus y faire grand-chose.
Sans qu'on puisse plus... Voilà, donc l'humain n'aura plus en main ces éléments. Et ça,
donc
je n'avais pas
c'est
encore compris.
C'est le truc du Gulf Stream, du permafrost, ces choses-là.
Exactement. On voit que tu as fait la fresque du climat.
Ouais. Il reste deux, trois choses.
Exactement, ouais. Permafrost et circulation thermohaline des grands courants marins. Donc, si ça, on perd le contrôle, en fait, on perd aussi des puits d'absorption de carbone. On crée des nouveaux éléments qui génèrent des gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point de bascule où je comprends aussi que l'écosystème, il résiste. Il n'est pas résilient, mais il résiste, en tout cas, il tient bon jusqu'à un certain point où là, il y a une bascule. Et en fait, ça, je ne l'avais pas encore bien compris dans le sens où, OK, il fait plus chaud, il y a des sécheresses, mais je vois encore les forêts vertes autour de moi, il y a quelques arbres roussis, mais ce n'est pas trop... Voilà. OK, il y a des rivières qui coulent, on parle de sécheresse, mais bon, le Rhône ne descend pas tant que ça. J'ai encore à boire au robinet, etc. Donc, j'ai du mal à prendre conscience.
C'est pas assez tangible.
C'est pas assez tangible. Dans...
Visuellement.
Visuellement. Et
donc,
en fait,
dans ton cerveau.
Et dans le cerveau humain.
C'est un peu le même principe que les platistes qui disent « je regarde l'horizon, c'est plat ».
Exactement. Bon, j'espère que je vais
rentrer. Je pense pas que Lorraine est à ce niveau-là.
Non, justement.
Non, mais ce que je réalise dans cette conférence, c'est que comme on voit pas le changement, on l'occulte. C'est aussi ces enjeux de sensibilisation de la population, parce qu'on voit de plus en plus hein, maintenant, parce que là, je parle de 2015 maintenant, ouais. C'est dans l'actualité tous les jours, mais c'est la métaphore du ressort. On tire sur un ressort, il reprend sa forme, on tire, et puis il y a un moment où on tire trop fort, il y a une trop grosse pression, quelque chose qui fait que...
Clac !
Il est cassé, et il reprendra jamais sa forme initiale. Ça, c'est nos 9 limites planétaires, où on tire. Bah, voilà, à un
Clac.
Moment, on risque de casser.
Je fais le son design.
Attends, j'ai une autre métaphore, on va voir si t'es bon. Le grain de maïs, tu le fais chauffer, et...
Plac, plop, plop.
Pop.
Voilà. Merci.
Ça fait du pop-corn. Ouais. Et le pop-corn...
Il ne redevient plus dans sa forme initiale.
Jamais. Donc, voilà, c'est le point de bascule. C'est ces deux éléments qui me disent, en fait, on ne le voit pas, mais ça va aller très vite quand ça va basculer. Et... on a encore les cartes en main sur un temps assez court, mais ça risque de s'emballer et de sortir des possibilités d'action de l'humanité. Et donc, c'est ces deux éléments-là qui, côté émotionnel, là, me poussent au-delà d'une transition personnelle et de me nourrir, qui me poussent à me mettre en action et à me dire « OK, maintenant, je fais le choix de l'impact dans ma vie pro, dans ma vie perso, et je change... » tous les paradigmes qui m'entourent pour être acteur dans l'impact.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
C'est le moment canap.
En fait, l'ASMR.
La transition est toute faite parce que tu viens de me dire que justement, je peux reparler peut-être normalement,
oui.
Que justement, tu as eu ce déclic qui t'a fait dire « OK, je vais aussi bien travailler l'impact dans ma vie pro que dans ma vie perso. » Comment ça se matérialise dans ta vie perso, ce changement ? Ces changements,
ouais, ces changements. Déjà, je voudrais commencer par dire que j'ai une énorme chance parce qu'on est alignés avec mon mari Mathieu. Et ce n'est pas le cas de tous les couples.
Eh non, mais vu les décisions que vous avez prises, effectivement...
Ne
ça...
spoile pas.
Non, je ne rentre pas dedans, mais effectivement, ça peut clasher quand on n'est pas aligné.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un premier point. On est très aligné et on est en chemin. Déjà, on commence avec une posture très humble, dans le sens où on a un long chemin à faire et on va y aller étape par étape parce que tous les changements d'un coup, personne ne sait faire ça. Donc, il faut y aller étape par étape. Et donc, peut-être pour donner quelques éléments de nos changements de vie, de nos choix de vie future, on s'est déjà mis en famille un calendrier, un objectif mensuel de modification de nos habitudes de vie. Et donc, on en parle et chaque mois, on fait des choix, des choses auxquelles on renonce, mais très positivement. Hein, c'est pas le renoncement, je me flagelle et je le vis hyper mal. C'est des renoncements choisis ou des changements
voulus de
mode de consommation, de mode de mobilité, de etc., etc., qui nous permettent d'avoir une évolution sur notre empreinte individuelle. Alors là, on va parler d'empreinte carbone, mais bien sûr, on fait des efforts sur les enjeux eau, polluants, biodiversité, etc. Mais si je prends ça, sur ce calendrier des transitions, on a d'abord commencé par calculer notre empreinte carbone personnelle. Ça, il y a des outils hyper simples qui existent, notamment Nos Gestes Climat, qui a été cofondé par l'ABC, l'ADEME, co-créé par MyCO2 de Carbone 4. Et en fait, ça, on le fait tous les 6 mois. Et on voit notre courbe d'évolution d'empreinte CO2 et quels ont été finalement les ordres de grandeur qu'on a réussi à gagner par des gestes individuels. Et je vais en citer quelques-uns. Nous, on a déjà décidé d'arrêter de prendre l'avion. Ça, c'est un renoncement, mais qu'on vit très bien. Ça ne nous empêchera pas de voyager autrement, en train ou en bas carbone, pour aller découvrir d'autres lieux de vie. Si je prends le volet alimentation, on a aussi énormément mesuré, pondéré ce qu'on consommait au quotidien pour petit à petit aller vers du flexitarien, puis du flexitarien plus. Puis aujourd'hui, finalement, la viande devient très rare. De la même manière, sur tous les biens de consommation, se poser la question... À chaque fois, il y a la méthode bisou, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, mais se dire à chaque fois un bisou avant d'acheter quelque chose, on se questionne sur notre besoin, notre intérêt, est-ce que c'est immédiat ou pas, d'acheter du seconde main. Et voilà, et en fait, tous ces éléments, on les met en place dans notre quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait aussi avec nos enfants. Je suis mère de 3 enfants. Et on invite aussi nos filles, pour le moment, parce que mon petit garçon, il est encore un peu petit, Léo Babillage, quoi,
oui.
à participer à ces décisions de vie. Et donc, on le fait comme un challenge en famille et c'est hyper positif. Ça nous, c'est un projet, en fait, de famille qui nous drive, qui nous conduit dans nos choix quotidiens. Et on l'a mentionné tout à l'heure, mais pour nous, c'est pas douloureux. C'est vraiment des chouettes choses qui nous rendent encore plus heureux au quotidien d'avoir réussi à faire des changements qu'on vit bien et qui ont un impact sur le poids environnemental qu'on représente au quotidien.
Et les filles, à leur niveau, est-ce qu'elles, entre guillemets, évangélisent dans leur entourage sur votre mode de fonctionnement, justement ?
Ouais, je pense. Je pense qu'on a des petites Greta Thunberg à l'échelle de notre village. Elles ont, avec leurs mots d'enfant, des réflexions hyper poussées. Enfin, par rapport à ce que moi, j'étais à leur âge, c'est bluffant. Elles ont des réflexes très installés et elles diffusent beaucoup à l'école, auprès de leurs copains, même auprès d'adultes.
Je rebondis juste là-dessus, mais un exemple très concret que je trouve intéressant. Quand vous allez à un anniversaire ou quand c'est pour l'anniversaire de vos enfants, typiquement, vous demandez à tout le monde de pas ramener un cadeau. Je te laisse peut-être poursuivre toute la logique qu'il y a derrière. Et le si ce n'est pas le questionnement, parfois, je pense, l'égarement aussi de certains parents, enfin, qui sont pas habitués à ça.
Ouais, tout à fait. C'est un des exemples parmi d'autres.
Parmi beaucoup.
Mais quand on fait les anniversaires de nos filles, ça nous est arrivé hein, au tout début d'avoir des dizaines de paquets tous emballés dans du plastique, alors qu'on est dans une dynamique zéro plastique et réduction des déchets. Donc en fait, la solution qu'on
c'est
a trouvée...
C'est que les enfants ne grandissent plus d'année en année.
Voilà, ça c'est pas mal.
Ou on n'invite plus de copains. Mais ça, c'est un peu chiant quand
même. Ouais. Mais c'est de dire, venez les mains vides, parce qu'un anniversaire, c'est surtout la présence, et l'événement, la fête, le souvenir qui est créé entre copains. Ou bien, si vous voulez venir avec quelque chose qui n'est pas nécessaire, venez avec un objet qui vous appartenait et que vous voulez me faire tourner, ou bien une seconde main, acheter circulaire.
Et peut-être un cadeau commun, plutôt que des milliers de choses, parfois en plus un peu inutiles.
Exactement. On informe parfois les parents, ça a été le cas pour l'anniversaire de Maël, je crois que c'était ses 5 ans, où on a acheté un trampoline et on a dit, bah voilà, il y aura un très gros cadeau. Si vous avez envie d'y participer, welcome, mais sinon, c'est nous qui l'assumons, il n'y a pas de problème. Mais il y a le geste du cadeau, de l'ouverture du paquet, qui est quand même très chouette pour les enfants, il ne faut pas non plus les priver de ça. En fait, on se rend compte que là, avec des cadeaux seconde main, bah, les filles, elles retrouvent des trucs. Ouais, voilà, elles ont vraiment des super petites choses. Et juste pour rebondir sur l'acceptation.
Est-ce que j'allais te demander?
Ouais. J'ai des parents qui le comprennent très bien, qui jouent le jeu, d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Et du coup, on se retrouve avec une énorme boîte en plastoc, emballée, etc., d'un truc dont elle a peu ou pas d'utilité, mais qui cassera certainement très vite. Enfin, je mets tous les gros préjugés, mais malheureusement, ça s'avère parfois, souvent, vrai. Et puis, j'ai eu, pour montrer aussi l'état de maturité, j'ai eu des mamans qui m'ont dit oh, « Mais c'est quand même trop la honte de t'emmener un cadeau seconde main et tu vas pas m'en vouloir !» Donc, il y a une question
de regard,
de posture sociale qu'il faut faire évoluer et de dire « En fait, c'est hyper chouette d'avoir un cadeau de seconde main. Et si je le mets clairement noir sur blanc sur l'invitation, non, en fait, ça me ferait plus mal au cœur que t'amènes un cadeau neuf emballé plutôt qu'un cadeau seconde main. » Donc, il y a des choses à faire infuser aussi par des petites choses comme ça. Je pense que le rôle d'ambassadeur, le rôle de figure et d'alignement par rapport à nos valeurs dans notre posture quotidienne, il est clé pour embarquer.
Je reste sur ce fil éducatif lié aux anniversaires, aux cadeaux, etc. Vous avez une malle à la maison où en fait les objets non utilisés, les cadeaux en fait qui t'ont peut-être pas embarqué, qui sont restés là à l'abandon pendant je sais plus combien de temps, bah retournent dans la malle et seront utilisés pour des cadeaux à d'autres.
Oui, alors plus que pour des cadeaux à d'autres, on fait un stand solidaire pour Noël, par exemple, qui rapporte de l'argent pour l'association des parents d'élèves pour financer les sorties scolaires, etc. Donc on l'a mis dans une boucle un peu plus globale, mais ouais, ça fait un peu la nana qui ressort les cadeaux. En tout cas...
Non, mais c'était l'idée d'apprendre que si tu n'utilises pas quelque chose, c'est que tu n'en as pas besoin.
Ouais. Oui, tout à fait. Exactement. Et j'avais envie, je ne sais pas si on peut faire ce petit aparté, juste tout à l'heure, je concluais sur le fait de... Il faut faire les choses pour faire passer le message et pas seulement les dire. Et je ne sais pas si vous connaissez l'exercice du clap.
Clap ?
Bah, je vous
non,
mets... C'est pas très visuel en podcast.
Il y a de la vidéo.
Ouais, bah, vous couperez si
allez,
il faut.
On verra.
Mais je vous... Alors, ce que je vous propose, c'est que je compte jusqu'à 3.
Alors, attends, tout le monde derrière son écran, ses écouteurs. On va tous jouer le jeu.
Voilà. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, on clappe dans les mains.
Ok.
Ça devrait aller,
c'est assez simple.
Ouais. Jusque-là, on devrait y arriver.
1, 2, 3. Bah alors les gars, j'avais dit à 3, on clappe dans les mains.
On était trop rapide.
Non, parce que vous
on
avez
a suivi le clap.
Ce que j'ai fait et pas ce que j'ai dit. Pourtant, la consigne était simple, mais voilà, c'est simplement pour montrer que c'est la posture, ce qu'on fait au quotidien qui compte pour les autres et pas ce qu'on dit.
Alors moi, je voudrais juste partager une anecdote de quelque chose que j'ai repris de toi, Lorraine, parce qu'à la naissance de notre seconde fille, donc pour ceux qui ne le savent pas, nous avons les mêmes enfants avec, avec Thomas.
Tu les miens sont quand même un peu mieux.
tu m'avais offert deux petites tenues, une mixte et une, c'était une petite robe qui avait appartenu à tes filles. Et le petit pyjama, je l'ai redonné à une amie que nous avons en commun, à qui j'ai dit, bah, ça venait de Lorraine. Et donc, ça suit. Et maintenant, quand il y a un bébé qui naît, souvent, j'offre quelque chose qui appartenait à une de mes filles. Bon, alors, je suis encore pas passée au stade de faire que ça, certainement par rapport au statut social, comme tu en parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, ça fait toujours hyper plaisir, parce que bah, ça a appartenu à quelqu'un, et ce vêtement a une histoire au-delà juste d'un vêtement. Et donc, merci, parce qu'à chaque fois, ça marche super bien.
Trop bien.
Ce sujet, encore une fois, il est question de changer. Moi, je m'interroge beaucoup à comment changer. Je m'interroge aussi beaucoup aux limites ou aux freins qu'on rencontre. Moi, j'en vois deux sur lesquels j'aimerais bien te faire réagir. C'est d'abord tes propres enfants. Tu parlais tout à l'heure d'éco-anxiété et... Dis-moi si je trahis un secret, mais à un moment, je sais que Maëlle, ta grande fille, bah, elle s'est posé beaucoup de questions et que c'était pas facile à son âge quand même d'être face. Tu vois, en parler, moi, j'ai de l'éco-anxiété parce que j'ai l'impression qu'on va pas y arriver. Et malheureusement, je le crois profondément et il y a plein de choses qui m'indiquent que ça va être difficile. Je dis pas que c'est impossible et je vais reprendre ma casquette optimiste. On peut y arriver. Néanmoins, c'est pas facile de prendre ça quand on a 5, 6, 7, 8 ans.
En effet, c'est pas simple à gérer. Je pense qu'il faut absolument laisser un espace d'expression des émotions. Parce que la peur, moi je l'ai entendu de la bouche de ma fille, j'ai peur. Comment ça va se passer? Le vide du futur et de la confiance dans le futur, etc. De la même manière, je pense qu'il faut être assez humble dans notre manière d'envisager ce qui va se passer. Moi, j'ai tendance à lui dire que on a moins peur quand on sait et quand on est en action. Moi, personnellement, j'étais plus angoissée quand je me renseignais pas sur ces sujets parce que je recevais des bribes d'informations qui étaient alarmistes, mais sans comprendre tout le mécanisme sous-jacent à ces enjeux interliés les uns avec les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus on amène les enfants à comprendre, plus on les apaise aussi dans le fait qu'ils ont les choses en main, ils ont une compréhension systémique, ça serait un grand mot, mais ils ont une compréhension des enjeux et ils font partie de ceux qui agissent. Alors, la question, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver?
Ça, on verra bien.
Qui serait ouais. En capacité d'y répondre, c'est quand même chaud. On peut le dire que
bon,
c'est quand même chaud.
À la fin, la planète sera toujours là.
La planète sera voilà. Toujours là, tout à fait. Et je pense que ce qu'il faut, c'est projeter une vie heureuse, une vie en conscience, avec des mécanismes de résilience personnelle, dans les situations qui vont se présenter dans l'avenir. Donc, l'éco-anxiété, elle se combat, je parle aussi des enfants, elle se combat par, et c'est mon point de vue encore une fois, hein, je ne sais pas si ce serait le point de vue des neuroscientifiques, mais elle se combat par la compréhension d'un premier pan. Et deuxième pan, c'est l'action. Se mettre en action, c'est d'ailleurs l'émotion, emotion, se mettre en mouvement. La peur, elle met en action et positivement. Et ensuite, ça dégage de la joie parce qu'on appartient à ces communautés et qu'on bouge et que finalement, on est une brique à cette énorme citadelle qu'on doit construire ou déconstruire. Mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut combattre ces enjeux d'éco-anxiété.
Mon deuxième sujet, c'est les copains et le militantisme. Quand on est conscient d'enjeux aussi importants et qu'on observe autour de soi, peu de sensibilité ou en fait simplement du désintérêt ou de on a autre chose à faire, on peut avoir envie de convaincre et au risque de passer pour surmilitant ou à un moment, Lorraine, t'es gentille, tu nous gonfles, on est sur autre chose. Comment on... Non, mais c'est vrai.
Comment il me paraît.
Je me demande comment, dans la vie quotidienne, on arrive à... Je sais que t'as pas mal réfléchi à tout ça, c'est pour ça que je le partage, parce que tout le monde a envie de pousser et en même temps, jusqu'à quel degré ou comment. C'est peut-être plus ça la question.
T'as tout à fait raison. En fait, ça peut même, des fois, quand on a des discours moralisateurs ou je ne sais quoi, être contre-productif, en fait. Premier point, moi, quand j'en parle déjà, ce que j'essaie de faire passer, c'est pas que je suis une écolo militante ou radicale, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, mais que j'ai atteint un niveau de lucidité sur certains enjeux, et que cette lucidité me permet aujourd'hui de pouvoir adopter personnellement des comportements que je pense plus exemplaires que ceux que j'avais avant. Mais ça reste à mon échelle, et je pense que le changement, il passe, ça rejoint le thème de tout à l'heure, il passe par la posture qu'on adopte et qui on est. Et en fait, c'est l'effet miroir qu'on peut avoir ensuite sur ces choix personnels qui peuvent ensuite en inspirer d'autres. Mais tu as tout à fait raison, c'est compliqué de parler d'écologie, c'est compliqué d'embarquer parce qu'on a tous nos histoires, nos référentiels, etc. Je veux dire, par exemple, moi, renoncer à l'avion, enfin, il y en a plein qui riraient et qui diraient « Merci Lorraine, t'es gentille, t'as fait 3 fois le tour de la planète avant de renoncer à l'avion, c'est facile. » Je bossais dans l'humanitaire et le développement, donc j'ai été dans beaucoup, beaucoup de pays. Oui, c'est facile pour moi. Aujourd'hui, c'est un renoncement facile. Par contre, pour d'autres qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager et qui, demain, peuvent se payer un billet d'avion, bah, je comprends qu'ils aient envie d'aller. Donc, en fait, il faut respecter le cheminement individuel et la liberté personnelle dans une liberté collective. En fait, ce qu'il faut, c'est pas penser uniquement soi et sa dynamique de transition, c'est comment on arrive à avoir une société soutenable sur une planète vivable en étant nous-mêmes épanouis par rapport à nos dynamiques personnelles.
C'est peu de dogmatisme finalement. C'est à l'écoute de chacun et puis chacun à sa mesure.
Ouais.
Mais on revient à ton idée de, enfin qui n'est pas la tienne au départ, mais de quota carbone où dans une limite individuelle, on est relativement libre.
Et après, j'ajoute juste un point sur une étude qu'a fait Parlons Climat et Destin Commun, qui a classé la population française en 6 grandes catégories d'acteurs vis-à-vis des enjeux climatiques. Ils ne l'ont pas fait avec des critères socio-professionnels traditionnels. Ils ont vraiment analysé les valeurs qui portent les gens dans leur choix quotidien. Et ils ont pu dégager, du coup, ces 6 grandes familles. Je ne pourrais pas vous les nommer, mais pour chaque famille, ils ont listé quels sont les arguments qui mettent en mouvement cette population-là. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des mécanismes derrière les neurosciences, les facteurs humains qui nous poussent dans nos choix quotidiens. Et on doit mieux comprendre, mieux appréhender ces thèmes pour réussir finalement à avoir les bons arguments, les bons éléments qui vont mettre de manière positive en action toutes ces catégories avec toutes leurs différences de valeurs et d'histoires personnelles.
Tout à l'heure, tu nous disais que tu t'étais largement documentée sur tous ces sujets-là. Et je crois qu'on a une petite dernière question surprise pour toi sur ce thème.
S'inspirer. Respirer.
Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas la main sur la télécommande et Thomas s'amuse à changer les jingles. Peux-tu m'envoyer la question surprise,
oui,
Thomas?
Oui, on est bien dans la réflexion d'inspiration. Exactement. Collective. Toi-même, tu l'as dit, tu te documentes beaucoup. Et donc, on a cette question envoyée par Solène à travers ma main.
Vous avez un message.
Salut Lorraine, je sais qu'une de tes grandes qualités, c'est l'optimisation et l'organisation, et que dès que tu as un moment de libre, que ce soit en faisant la vaisselle, en te lavant les dents, en allant aux toilettes ou que sais-je, tu écoutes des podcasts sur la transition. Du coup, est-ce que tu aurais des recommandations pour les auditeurs sur 2-3 personnes, 2-3 conférences ou podcasts à leur faire écouter pour découvrir ce milieu? À plus.
Qui est cette voix?
Bien renseignée.
Comment il sait quand je vais aux toilettes? C'est donc mon mari, Mathieu Perraudin. Mathieu Perraudin. Non.
Et mon mari pour la vie.
En effet, déjà, le point qu'il met en lumière, c'est que j'essaie d'optimiser mes temps creux, entre guillemets, pour grandir, parce qu'à la fois, je suis entrepreneur et j'ai 3 enfants. Et du coup, j'ai quand même peu de bandes passantes pour continuer à avoir une veille et à être bien en alerte sur tous ces sujets et ce qu'il sort de nouveau, etc. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts, de conférences, de chaînes YouTube, etc. Pour en citer quelques-unes, alors, il y en a beaucoup, je sais pas si... Je dirais qu'il y a le podcast d'Audrey Boëli, Dernière Limite, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Pourquoi?
Alors, elle fait le tour des 9 limites planétaires. Et justement, je trouve que ça donne une vision plus globale, plus systémique de ces enjeux. À chaque fois, elle a des personnes extrêmement compétentes. Et c'est une journaliste de formation qui monte bien ses podcasts, un peu comme vous, mais voilà, ce qui fait que c'est très fluide à écouter et très très pertinent dans le fond, et ça donne une vision globale.
Et c'est accessible?
Et c'est, je pense, ça serait difficile de répondre parce que par ma formation, ouais, je suis ingénieure, etc. Donc, moi, j'invite tout le monde à écouter.
Faites-vous une idée, quoi.
Faites-vous une idée. En fait, il existe tellement de ressources aujourd'hui que chacun peut trouver le bon langage qui s'adressera à ses connexions cognitives. J'aime
donc,
beaucoup.
Si on comprend pas, c'est qu'on atteint la 10e limite, la limite intellectuelle. Voilà.
Le facteur humain, les limites de. Je me mets. Il y a Sismic, le podcast c'est Julien Devoré, qui m'a beaucoup beaucoup inspiré. J'ai écouté aussi toutes les chroniques de Pisser sous la douche ne suffira pas de Team for the Planet, la communauté super chouette dont je fais partie activement, et puis je fais partie des shifters aussi, donc je cite Time to Shift, voilà, qui m'a permis de bien avancer. Mine de rien, aussi mon engagement bénévole auprès des shifters sur ces 2 dernières années, on était à la programmation des univers shiftés et notamment aux lignes éditoriales des univers shiftés, et donc d'aller chercher des intervenants, de préparer des conférences avec eux, de leur donner la parole en conférence, ça m'a aussi permis de bien bien évoluer. L'année dernière, j'étais avec Timothée Paric, avec Com Girschig, avec Thomas Wagner, avec Capucine Dupuis, enfin voilà, des gens hyper inspirants qui me font cheminer, et c'est comme ça qu'au quotidien je grandis sur ces sujets.
Tout au long de cet épisode, on a parlé d'un monde fini et de ses limites. Un podcast, un épisode, c'est la même chose. C'est un temps fini et on a encore malgré tout beaucoup de sujets à aborder. Je te propose de passer à notre rubrique « Première fois, dernière fois ». À commencer par... une question que je pose à tous les entrepreneurs et qui aura peut-être d'autant plus de sens aujourd'hui. Premier renoncement.
Premier renoncement. Ah. Je pense tout bêtement, ça a été quand on avait encore un véhicule thermique, de rouler à 110 sur l'autoroute. J'ai renoncé à 20 km/h de vitesse pour vraiment limiter mes émissions de CO2. Si on parle des renoncements côté écologique, vous voyez, je suis un peu...
Non, mais c'était l'idée.
Ton premier doute?
Premier doute, c'est est-ce que j'ai bien fait de partir en intelligence collective? Parce que le temps est beaucoup plus long. Mon rétro-planning initial a été explosé. Mais maintenant, je ne doute plus.
Dernière nuit blanche, s'il y en a, toujours liée au mouvement, reste un peu...
Dernière nuit blanche, j'ai pas mal cogité sur une cérémonie laïque que je devais organiser pour des copains qui m'a fait faire des nuits blanches à gogo.
Donc pas du tout lié au mouvement tilt, hein. Ça fait pas partie des...
Il y en a, mais le perso est tout aussi prenant que le pro.
J'ai entendu dire que la cérémonie était réussie et que tes amis t'en étaient éternellement reconnaissants.
Premier travestissement,
je me suis déguisée très jeune.
Ceci dit, je pense que je fais une parenthèse, mais je pense que tu peux nous raconter une anecdote, non, sur ce sujet.
Sur la transition aussi.
Oui, sur la transition.
C'est ça que tu as en tête. Ah. Alors,
je sais pas où on va, mais vas-y.
Parce que c'est moi la mémoire.
Alors, pour répondre dans un premier temps, si on parle de déguisement, je me revois sur des photos petites déguisées en poussin jaune, ça. Le dernier, c'était j'étais en Geneviève de Fontenay et mon mari en Miss France. Ça, c'était pour notre investissement. Et sinon, pour la petite anecdote à laquelle fait référence Soline, parce que on se connaît bien, donc ils connaissent mes petites anecdotes. J'ai fait une formation quand j'ai commencé à lancer le mouvement Tilt avec Pôle emploi pour bien encadrer ma dynamique entrepreneuriale. Et je suis tombée sur une structure assez traditionnelle sur comment monter une boîte, faire son business plan, sa com, etc. Et donc, quand j'ai présenté en quelques mots le projet Mouvement Tilt, j'ai mentionné que c'était un mouvement philanthrope pour accélérer l'impact de la philanthropie au service des transitions, sans préciser écologique. Et la personne s'est relevée en me disant « Mais il y a tant de gens que ça qui veulent changer de sexe
!» J'avais oublié.
Et donc, effectivement, la transition, c'est aussi pouvoir changer de sexe quand on se sent femme dans un corps d'homme ou homme dans un corps de femme.
Donc, tu as déjà préparé ton pivot si jamais ça ne va pas assez vite côté mouvement tilt.
Mais je me suis dit qu'il y avait un peu de boulot à faire dans le monde de l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour aussi faire en sorte que toutes les structures qui aident à la création de business puissent déjà mettre les graines d'un business soutenable. Hein. Vous êtes aussi dans le cœur de cet écosystème. Je sais que la Fondation Entreprendre y travaille aussi avec Thibaut de Saint-Simon. Donc, il y a des choses qui doivent infuser. En tout cas, moi, je l'ai vécu personnellement. J'étais un ovni dans la salle et j'ai compris à quel point le sujet était loin d'eux par cette remarque qui restera effectivement une punchline à ressortir de temps en temps.
Dernière réussite.
Je dirais convaincre des philanthropes, je ne sais pas si je peux les citer.
Tu peux.
Bon, en tout cas, deux très grands là qui s'intéressent au mouvement et pour qui ça pourrait marcher. Trois, je vais en dire trois. La Fondation EDF qui va peut-être nous rejoindre. Donc ça, c'est très chouette aussi vis-à-vis des enjeux d'énergie et de transition énergétique qui sont liés à la transition écologique. La Fondation Crédit Mutuel que j'ai réussi à avoir au téléphone. L'Alliance Fédérale, hein, donc c'est... Le
groupe.
Oui, et puis c'est surtout une dynamique très innovante dans la philanthropie puisqu'ils ont créé le dividende sociétal. Ils reversent 15% de leur résultat pour l'intérêt général. Donc, c'est vraiment une très, très belle dynamique qui montre la voie à d'autres. D'ailleurs, la Maïf a aussi annoncé un dividende environnemental derrière ça, etc. Et puis, le troisième, c'est la Fondation Caritas, par exemple, que je vais rencontrer cet après-midi, avec qui on va pouvoir mettre en place des programmes d'accompagnement pour leurs lauréats. Donc, très belle réussite sur ce dernier mois qui vient de se passer.
Bravo, clap, 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 clap. C'est mon sound design vocal pour dire bravo. Tu parlais de la Maïf. Je voudrais savoir quelle suite a été donnée à ton mail très personnel directement au président de la Maïf. Et ouais. T'as répondu.
Il m'a répondu, alors vous voyez, hein, Thomas et Solène sont bien au courant de...
Tu formates un petit peu de contexte oui, pour nos auditeurs.
Ouais. Ouais. Alors, ça fait partie des éléments d'évolution de nos pratiques dans la vie familiale. Tout à l'heure, j'en ai cité quelques-uns, mais pas tous. Un très gros, c'est qu'on est passé sur un véhicule électrique. On avait un thermique diesel. Or, on sait qu'il y a une dette carbone importante à l'achat d'un véhicule électrique. Sur l'ensemble de la vie du véhicule, c'est vraiment intéressant de partir sur l'électrique et il faut absolument y aller. Mais toutefois, il faut considérer cette dette dans notre bilan carbone. Et nous, en plus, on est parti sur une grosse voiture parce qu'on a 3 enfants, qu'à chaque fois qu'on part en balade, on emmène des copains. Donc, il nous fallait 7 places. Bref, on a pris un gros véhicule avec une grosse batterie et on sait que la dette carbone est à hauteur de 100 000 km. Et donc, pour contrer cet impact négatif, on a décidé d'avoir une voiture en économie du partage plutôt que de l'avoir en économie de la possession. Et on a proposé à différentes personnes de notre entourage proche dans le village de pouvoir utiliser notre voiture pour réduire l'impact carbone de leur mobilité au quotidien. Donc, on a mis en place un système avec un calendrier partagé, un boîtier de clés. Enfin, j'en parle comme si tout était bien ficelé, mais pas tant que ça, ça marche pas encore à fond. Parce que... Et le seul gros point bloquant dans toute cette dynamique, c'était qu'aujourd'hui, le conducteur principal est responsable dans un accident et donc prend sur son bonus-malus si un tierce a un accident avec son véhicule. Et donc... on a contacté plusieurs assurances, dont la Maïf, chez qui on est sociétaire, et on a écrit à Pascal Demurger directement une lettre manuscrite. Hein. Et Pascal Demurger nous a répondu en son propre nom, avec sa propre plume, donc super chouette.
Pour faire bouger le monde de l'assurance.
Voilà, ce qu'on leur a dit, c'est « Vous êtes pionniers sur beaucoup de choses, on est très fiers d'être sociétaires de la Maïf. » On pense que vous pouvez aller plus loin parce qu'il faut préparer la société à être dans une économie du partage plutôt que de la possession. Et aujourd'hui, sur le système d'assurance automobile, vous êtes un frein à ça. Et donc, il faut réfléchir à ces modèles pour partager ou en tout cas imputer le bonus-malus à la personne qui a l'accident. En espérant qu'il n'y en ait pas, mais voilà. Et donc, ils ont bien reçu le message. Ils y travaillaient déjà. Mais ils accélèrent et ils étaient, je me souviens de l'entête de sa lettre, de dire qu'il était particulièrement fier que des sociétaires se permettent de faire ça, envoient des courriers et que ça fera bouger d'autant plus les choses et qu'ils nous tiendraient au courant. Donc, on n'a pas eu de nouvelles, mais on suit le dossier de près.
Mais j'aimais bien la démarche.
Oui, bah, tout à l'heure, on parlait des démarches personnelles. Je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, à la fois, c'est d'être exemplaire, mais à la fois, de pas hésiter aussi. En fait, c'est facile
à proposer,
d'envoyer ouais. un message à sa commune. C'est facile d'envoyer un message à un grand PDG. En fait, les gens ne s'autorisent pas à faire ça, mais on peut le faire. Il faut, et dans une dynamique bienveillante hein, et constructive, l'idée, c'est de faire bouger les lignes.
T'as pas juste mis 0 étoile sur Google.
Ouais. C'est pas trop mon style. Mais voilà, en tout cas, on peut être acteur à plein de niveaux et il faut pas avoir peur de faire bouger les choses parce que c'est l'action citoyenne aussi qui provoque les grandes bascules.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Cette fois, Thomas a lu dans mon regard. On va clore presque ce podcast avec une carte blanche. Cette carte blanche, c'est te laisser le micro pour défendre le projet, le sujet de ton choix.
Très bien, merci. Alors... vous m'aviez mise au courant, donc j'ai préparé une carte blanche. Elle n'est pas vraiment orientée tilt, parce que tu me disais le projet. Ce que j'ai voulu dans cette carte blanche, c'est d'abord remettre en perspective une notion de temps. 4,6 milliards d'années et 7 nanosecondes. 4,6 milliards d'années, vous le savez certainement, c'est l'âge de notre planète Terre. Et 7 nanosecondes, c'est... le temps d'un battement de paupière. Et ce temps de battement de paupière, c'est l'échelle de l'ère industrielle si on ramenait l'âge de la Terre à 24 heures. Et donc, je vous propose de faire très rapidement ce parallèle. Minuit, la Terre, c'est une boule de lave en fusion. 6 heures du matin, on a la naissance des premiers organismes marins qui commencent à se développer, les micro-organismes. À 14 heures, ces micro-organismes ils commencent à synthétiser des molécules d'oxygène. À 22 heures, la vie marine qui se développe jusqu'à maintenant commence à migrer sur la Terre. À 23 heures, 58 minutes et 46 secondes, c'est l'apparition de l'être humain. Et 7 nanosecondes avant minuit, le temps d'un battement de paupières, c'est l'ère industrielle dans lequel on se trouve qui a tant d'impact positif comme négatif sur le vivant, la planète en général. Donc je trouve que c'est important de le remettre à l'échelle globale pour se rendre compte. Et du coup, cette carte blanche, c'est plutôt un appel à l'action pour que dans notre quotidien professionnel, personnel, on fasse le choix de l'impact. Parce qu'on est une toute petite page de vie. L'ère de l'anthropocène dans lequel on se trouve actuellement doit changer. On est à un virage civilisationnel et la page qui va s'écrire est très belle. Donc, il faut le prendre avec force, avec joie et conviction parce que les défis sont énormes. Tu le disais, on est dans un modèle de croissance infinie, dans un monde fini. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut remettre à zéro nos disques durs cérébraux pour penser à différemment et changer notre manière de voir, de faire les choses. Et voilà, donc je fais le vœu de l'éveil des consciences pour que chacun comprenne les défis et que, en toute bienveillance, on soit tous demain des vulgarisateurs en dehors des clivages politiques, culturels, entrepreneuriaux, parce que les défis environnementaux, biodiversité, énergie, etc., transcendent vraiment ces éléments. Et ce que j'invite tout le monde, c'est à ouvrir ses oreilles, à titiller ses neurones quotidiennement pour grandir, comprendre, parce que les enjeux sont énormes. Donc, c'est un cheminement long pour avancer. Moi encore, je suis au début du chemin. Et donc, écouter plein de podcasts, notamment sur tous ces enjeux. Je pense que on est une génération, peut-être pour terminer sur un point positif, on est une génération qui est finalement chanceuse. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sens. Et donc, je suis enthousiaste vis-à-vis de ce virage sociétal pour lequel on est co-acteurs aujourd'hui. Et peut-être pour un petit mot de la fin, je vous invite donc tous à passer à l'action en vivant pleinement le moment présent pour être heureux au quotidien, mais en gardant un œil toujours sur les conséquences à venir des choix qu'on fait aujourd'hui.
Et bam, deuxième claque. C'est très chouette de la part du podcaston de nous inciter à entendre d'autres narratifs que ceux qu'on peut avoir l'habitude de découvrir, de mettre en lumière dans un format forcément avec ses contraintes éditoriales. Là, on avait le choix total et on regrette pas d'avoir pu t'entendre, développer ta pensée tant personnelle que collective. On est, il semblerait qu'au début du chemin. On va essayer d'en faire une force, une motivation et de l'enthousiasme plus que de la peur. Il y a cette phrase qui dit que la peur n'évite pas le danger. Donc, on n'a pas peur et on va trouver les solutions.
Et je rajoute qu'on pourra retrouver le mouvement Tilt sur le site du Podcaston, qui a donc lieu cette année du 25 au 31 mars. Et merci, un immense merci, Lorraine, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci Thomas et Solène de m'avoir donné la parole et j'espère que ça donnera de la visibilité au mouvement Tilt et j'invite toutes les fondations, fonds de dotation ou philanthropes individuels à venir prendre part à cette démarche collective.
Eh bien, le message est passé. On te retrouve, j'espère, très bientôt dans notre vie perso pour savoir comment tout ça évolue et grandit pour notre bien à tous.
Merci Thomas pour ce co-host.
Merci Solène, c'est rare.
C'est
et
rare.
Ça me fait toujours plaisir de te retrouver. Toi aussi, on ne doit pas se voir assez dans nos vies respectives.
Merci à tous les deux.